Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
On vous promet une heure encore magnifique pour les grandes gueules du sport en ce dimanche jusqu'à midi, 11h04. Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui avec Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Olivier Giraud et Jérôme Pinault. Si vous avez manqué quelques débats, n'hésitez pas à aller nous réécouter cet après-midi tranquillement en podcast. On a évoqué l'Olympique de Marseille. Est-ce que les émotions peuvent vous faire oublier les résultats? On a parlé de Tadej Pogacar, peut-il devenir le plus grand? Encore Max Verstappen, peut-il vraiment passer chez l'ennemi Mercedes? N'hésitez pas à aller nous réécouter. Je le disais, un programme encore magnifique durant une heure. Éric Roy, Luis Enrique, voici les deux favoris pour le trophée de meilleur entraîneur de l'année en Ligue 1. Faut-il récompenser le résultat ou le mérite? Pas facile de trancher cette question, les GG, ce sera dans quelques instants. 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Un débat caché qui devrait vous plaire, encore une fois, aujourd'hui. Et puis 11h45, comme tous les dimanches, journée et année olympique. C'était mieux avant. Christophe Cessieux, ton bonbon du jour sur les JO.
Je vais revenir sur une édition terrible des Jeux Olympiques 1972, mais je vais vous en parler un tout petit peu, mais de l'attentat, vous savez, de Septembre Noir. Mais je vais vous parler d'une finale complètement dingue, finale de basket entre les États-Unis et l'URSS. C'est une finale, vous allez voir, qui est rentrée dans l'histoire. On était en plein cœur de la guerre froide, et la guerre froide, ce jour-là, s'est transposée sur le parquet.
11h45, c'était mieux avant avec Christophe Cessieux. Et puis pour vous, chers auditeurs, mardi soir, c'est le grand moment. Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Et on vous propose l'expérience RMC. Vous allez pouvoir venir à Paris. Vous viendrez dans les locaux à la rencontre des équipes d'RMC Sport. Deux places pour le match et ensuite retour dans le studio RMC pour assister à l'afterfoot, le débrief de cette rencontre. C'est pour vous et rien que pour vous dès que vous entendez ce signal. Ça tombera dans cette émission. Dès que vous entendez ce signal, vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16, ça peut vous aussi vous arriver. Jean Rostand a dit un jour, le mérite envie le succès et le succès se prend pour le mérite.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Moi, je crois à rien, je crois à tout. Je crois à notre prochain match où on va essayer de faire le meilleur match possible et de marquer des points.
Il est meilleur.
Le centre de Kanguini, la tête est croisée de Ramos. Oui,
le but.
Oh, quelle tête!
Ne cherchez pas de retard, tout est positif. Je suis convaincu que l'année prochaine, on sera meilleur. C'est en tout cas le message que je veux faire passer aux joueurs.
C'est qui le patron?
Donc, comme on l'a dit toujours, on fera les bilans à la fin.
Calendrier, ça veut rien dire. Hein. Les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner.
Qui est le joueur qui est meilleur?
Je crois que depuis mon arrivée, j'ai senti le soutien du club. On s'est amélioré, on est encore vivant dans toutes les compétitions. On doit bien gérer nos émotions, la pression aussi. Il ne faut pas voir la pression comme une menace.
Mardi, l'UNFP a dévoilé les nommés pour ses habituels trophées de fin de saison. Cette cérémonie, vous le savez, qui récompense les meilleurs de notre championnat dans différentes catégories. Et une cérémonie qui aura lieu le 13 mai prochain. Alors dans la catégorie du meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ils sont 5, par ordre alphabétique pour ne froisser personne. Lucas Elsner, l'entraîneur du Havre, même lui se demande ce qu'il fait là. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Paolo Fonseca de Lille, Franck Aize de Lens et Éric Roy, évidemment, de Brest. Les deux grands favoris pour ce titre. Le nouveau champion de France, Luis Enrique, et la sensation de la saison, Éric Roy. La musique qui fout les jetons. Et cette question, faut-il récompenser le résultat ou le mérite? Christophe Cessieux.
Moi, je vote Roy. Il a le mérite et les résultats.
Ok, il ne veut pas répondre à la question. On va faire comme si, mais il votait pour le mérite, ok? Éric Roy, très bien. Le mérite ou le résultat? Olivier Giraud.
T'as vu ce que je t'ai répondu? Je ne sais pas quoi répondre. Réellement, je ne sais pas quoi répondre, mais je peux t'expliquer pourquoi je ne sais pas quoi répondre.
Ok. Jérôme Pinault.
Et moi, j'ai dit le mérite, et pour l'instant, ils sont tous les deux sur la même ligne de ce que j'ai moi en tête, c'est-à-dire qu'on fait avec l'effectif qu'on a et on doit gagner avec ça. On doit performer avec ça.
Attends.
Les deux.
Moi, je demande juste le mérite ou le résultat.
Le mérite.
Oui ou non, vous me répondez,
pardon,
les copains.
Je t'ai perdu, cette.
Ok, le mérite. Très bien. Et ensuite, peut-être vous interviendrez. Peut-être. Marion Bartoli.
Le mérite.
Le mérite. Alors avant de vous écouter, de débattre ensemble, je vous propose d'écouter Pierre Sage, qui lui n'est pas dans la liste.
C'est très très bon, c'est très très bon ce qu'il a dit, je suis très très d'accord avec lui.
Et ben justement, on va l'écouter Pierre Sage, c'était hier en conférence de presse. Il ne sera pas l'élu, même s'il a réussi à redresser la situation à Lyon. Et voici ce qu'il pense de ce trophée.
Pas du tout. Vous savez, j'ai une relation très particulière avec les statistiques individuelles et les classements individuels. Donc, c'est quelque chose qui ne m'interpelle pas du tout au final. Ça a fait un peu de bruit. Alors, on m'a dit effectivement que c'était relatif au fait que j'étais pas là depuis le début de saison, que je n'ai pas le diplôme. Mais dans tous les cas, je félicite les coachs qui y sont et je souhaite au meilleur de l'emporter. Maintenant, il faudra m'expliquer ce que c'est qu'être le meilleur entraîneur. Parce que quand on élit un entraîneur sans avoir assisté à une de ses séances, alors que le métier entraîneur dit qu'il faut entraîner, et donc on va élire quelqu'un sur un métier dans lequel on l'aura jamais vu exercer son métier, ça me questionne. Meilleur coach peut-être, mais bon, tu peux pas coacher s'il se passe pas grand-chose la semaine non plus. Hein.
Et voilà pour la réponse de Pierre Sage.
C'est, bon. Alors c'est un peu facile. À ce moment-là, tu donnes plus aucune récompense parce que l'Oscar ou le César, bah tu t'as pas vu comment l'acteur travaillait avec le réalisateur, le meilleur journaliste, le meilleur reportage, t'as pas vu comment il a fabriqué son reportage. Évidemment qu'on sait, on connaît pas le fond de.
Mais
des
on juge son équipe, sur
juge
le terrain.
Son résultat, oui. Sa façon de faire. Oui, ça c'est un peu facile. Je comprends qu'il ait un peu les boules, mais je comprends aussi que ces récompenses ne servent à rien. Ça, je suis d'accord avec ça.
Ok, donc t'es un peu d'accord avec tout.
Non.
Non, ouais, pas avec moi.
Pas avec toi.
Non, j'ai bien compris.
Ça, c'est un principe. Le petit régal, c'est quand même.
Je suis pas toujours d'accord avec Marie-Claude, notamment.
Le petit
plus.
Régal dans son
surtout.
Dans sa réponse, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le petit passage sur et j'ai pas le diplôme.
Oui.
Ça, je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle il n'est pas, ouais. pas nommé. Hein. C'est clair et net. Je ne peux pas récompenser un mec de la part de l'identité qui insiste et qui forme les entraîneurs.
Ok, mais moi je veux savoir s'il faut récompenser le résultat ou le mérite.
J'ai commencé à te répondre. Moi j'ai le mérite pour moi tu es le meilleur entraîneur quand tu disposes et que tu tires à 100% de l'effectif.
De ton effectif.
Des joueurs que tu as avec qui tu travailles au quotidien. Mais ça peut être du résultat, ça peut être de. Alors on revient au premier débat, l'émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait pour performer et où t'en es arrivé? Si Luis Enrique est champion de France, il l'est aujourd'hui, et fait la finale de la Champions League, il a tout autant réussi son année que Eric Roy, qui va faire, avec l'effectif qu'il a, dans les quatre premiers de la Ligue 1, les deux à départager, très difficile. On aurait tendance à dire, nous, on aime bien en France le petit par rapport au grand. Eric Roy, c'est fantastique, c'est génial. Oui, certes, mais d'arriver avec aussi pléthore de stars, après ce qui s'est passé, arriver à performer ainsi, parce qu'il performe, c'est pas toujours très beau, ça plaît pas toujours à tout le monde, mais il performe, les résultats sont là. Je pense que c'est aussi très difficile de faire ce qu'il a fait Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain cette année.
Alors, enfin, ils en sont déjà à 4 défaites en Champions League.
Ouais, mais là, t'entends, Mario. Les 4 défaites, tu t'en tapes si tu vas en finale et après t'es en finale.
Oui,
et moi, je parle de la Ligue 1. Ils sont nommés en Ligue 1, hein, ok?
Donc, en Ligue 1, c'est quand même mille fois plus facile.
Ils ne font pas fi de ce qui se passe en Europe quand tu élis un entraîneur. Et évidemment que ce que fait Eric Roy est juste fantastique.
C'est génial.
Ok, une fois que tu m'as dit ça, tu m'as dit que les deux c'était bien.
C'est le sentiment, c'est ce qui ressort du truc. Évidemment que Luis Enrique est en train de réaliser une saison extraordinaire. S'il fait le quadruplé, t'imagines, ce sera difficile de pas dire qu'il est le meilleur entraîneur de France avec un effectif qui a changé, avec les méga stars qui sont partis. Il est dans l'obligation de réussir. Quand tu as le plus gros budget de France, que tu as toutes les stars, t'es obligé. Donc finalement, c'est un train qui arrive à l'heure si le PSG performe et s'il lui gagne. Voilà, c'est comme ça. En revanche, s'il gagne pas, là c'est là où tu te dis, tu lui tombes dessus. Eric Roy, c'est là où il a les résultats, mais il a le mérite, mais il nous a surtout surpris. Et c'est ça qui est dingue. Ce mec, il arrive, il sauve le club. Il était plus entraîneur depuis 11 ans. C'était considéré un peu comme un has-been au niveau de l'entraîneur. Et il arrive, il sauve le club, il continue, et derrière, il les amène peut-être en Ligue des Champions. Il provoque un truc incroyable avec des joueurs de seconde zone, mis à part quelques stars. Et là, évidemment, arriver à tirer la quintessence d'un groupe moyen-âge, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est en ça que c'est un grand entraîneur, pour moi.
Donc c'est en ça qu'il faut voter, Eric Roy.
Voilà.
C'est ce que tu me dis.
En plus, c'est une histoire.
Il m'a pris tous mes arguments.
Ah, pardon.
Ben oui, mais on est quatre à débattre. Hein. Non, alors, il t'a pris tous les arguments. Moi, je vais un petit peu vous rentrer dedans, les copains. copain. Parce que.
Normal.
Mais attends, j'ai même pas parlé.
Mais oui, mais parce que si t'as pris les mêmes arguments, je sais ce que tu vas dire.
C'est pas, là, vous êtes en train de.
Oui, mais vous allez me faire le. Vous êtes en train de me faire le.
Elle allait nous dire, et Jean-Luc.
Attendez, vous êtes en train de me faire le constat. Vous êtes en train de me faire le constat de le PSG, ils doivent être champions et il a réussi à l'être. Et Eric Roy, on les attendait pas.
C'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce que j'ai dit du tout.
Oui, mais si Marion redit ce que dit Christophe, j'ai compris. Ça, le constat, tout le monde peut le faire. Au final, il faut récompenser quoi quand on donne un titre? Est-ce qu'il faut récompenser le mec qui devait
le faire? Le Cédric est l'entraîneur de l'année s'il arrive à faire le quadruplé.
Mais moi, je parle de Ligue 1, on n'en sait rien parce que les votes auront lieu avant.
Mais tu as vu combien de fois le PSG était champion de France?
Non, mais combien de fois le PSG était champion de France? Catégorie. Alors tu fais comme au César, tu fais des catégories. Catégorie meilleur entraîneur avec un budget à 700 millions, catégorie meilleur entraîneur avec un tout petit budget, je crois. Et là, tout le monde est content.
Ils sont 15e budget de Ligue 1.
Marion, tu ne peux pas me dire que Luis Enrique sera élu meilleur entraîneur le 1er juin s'il gagne la Ligue des Champions, sachant que ça a lieu le 13 mai. Aujourd'hui, comment tu fais pour les départager?
Mais je te dis que là, on sait très bien que dans l'inconscient collectif, le PSG chaque année, à part un accident, mais une sortie de route, ils en ont eu quelques-unes. Parfois, certains sont arrivés à être effectivement champion de France, c'est pas le PSG, mais quand tu regardes sur les 15 dernières années, on sait quasiment très bien qui à l'avance va être le champion de France. Donc tu les juges pas un entraîneur du PSG là-dessus. Tu juges un entraîneur du PSG sur le reste des trophées qu'il va pouvoir aller chercher. La Coupe de France, le trophée des champions, la Ligue des champions, bien évidemment, avec son parcours. C'est là, c'est pour ça la raison pour laquelle, regarde le nombre de défaites pour l'instant du Real Madrid sur une demi-finale avant, la demi-finale retour de Ligue des champions par rapport au parcours du PSG. C'est pour ça que je me suis permis de dire que pour l'instant, il n'y a qu'à défaite. Et bien sûr que quand même le PSG pourrait être qualifié sur la finale. Et bien sûr qu'aussi sur un match, ils peuvent renverser le Real ou le Bayern et gagner la Ligue des champions. Donc tout est possible. Mais qu'un entraîneur ne soit plus actif depuis le Nice de 2010-2011 et qu'il arrive à reprendre un club la première année, le sauver, le maintenir en Ligue 1 et ensuite avec le 15e budget de Ligue 1 arriver à être aujourd'hui dans le top 3, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comme résultat. C'est beaucoup plus difficile.
Ok, donc
t'as un effectif déjà
de,
qui est extrêmement limité. Il faut arriver à faire avec un banc qui est quasiment inexistant et aller performer contre des énormes écuries. Bien sûr que c'est exceptionnel. Après, malheureusement, et alors vraiment du fond du cœur, je leur souhaite pas du tout, c'est qu'on sait très bien généralement comment ça se passe après. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui se sont fait remarquer. Ouais. Il va y avoir des plus gros clubs, certainement d'autres championnats qui vont avoir. Mais oui, mais bien sûr. Mais donc, du coup, l'année prochaine, c'est là où ça va être beaucoup plus dur.
Déjà, même avec Lens aujourd'hui. Déjà, restons sur cette saison et sur cette année. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, on est en train de me dire, mais oui, mais le mérite d'Éric Roy, c'est d'avoir des résultats. OK. On a compris, bien les sûr. Copains. Évidemment, s'il est élu dans les meilleurs entraîneurs, c'est que aussi, il a eu des résultats. Mais vous comprenez bien le sens de la question. C'est est-ce qu'on doit juger le résultat pur, champion de France, meilleur entraîneur de France, ou le mérite d'avec une équipe beaucoup plus faible, arriver à être peut-être qualifié en Ligue des Champions.
Regarde ce que fait Stuttgart actuellement, ils sont troisième de Bundesliga, alors que c'est un club qui normalement chaque année joue le bas de classement.
Bah, on peut parler du Bayer Leverkusen si on parle de la Bundesliga.
Mais ça arrive dans d'autres championnats.
Olivier Giraud, vas-y, pourquoi tu réponds pas à cette question?
Parce que en fait, il faut répondre à la question qui vote.
Il n'y a pas le débat, tout simplement.
Qui vote? On va voir. Qui vote d'abord? C'est-à-dire que ce sont les joueurs et les entraîneurs. Donc cette partialité, elle appartient à c'est plus émotionnel qu'autre chose. Donc moi, j'ai toujours eu du mal déjà avec les joueurs. Ça veut dire que le meilleur joueur du championnat, c'est celui qui met le plus de buts. C'est ça. C'est-à-dire que les autres, ils font un autre sport. Là, c'est la même chose. Est-ce qu'ils font le même métier les deux? Pas du tout. Non. Ils font pas du tout le même métier. Il y en a qui gèrent des égos et je dis pas qu'il y a un métier qui est plus facile que l'autre. Et il y en a qui doit entraîner des joueurs et qui doit faire avec ce qu'il a. Et ponctuellement, il est capable de réussir quelque chose d'exceptionnel sur une saison. Et ça, je pense que ça peut être récompensé lorsque Lille a gagné, lorsque Montpellier a gagné le championnat. Et là, il en est même pas à gagner le championnat. C'est-à-dire que son championnat, il est même pas fini à lui. Alors que celui de Luis Enrique, il est déjà terminé. Il est champion de France. Donc lui, son contrat, il l'a rempli. Celui d'Éric Roy, si on le prend du côté émotionnel.
Si ça se passe tout à l'envers.
Émotionnel. Et finalement, je trouve ça fantastique et qu'il faut féliciter ça. Mais le vrai problème, la vraie problématique, c'est qu'est-ce qu'on vote? On vote pour quoi? Est-ce qu'on, tu me dis,
le
résultat ou le mérite? Eh ben, tu sais quoi, ce débat-là, on peut le reprendre à chaque fois. Ça veut dire que ce qui est important, c'est qui vote. Et pourquoi les gens vont voter? Et pourquoi les gens vont voter plus une chose que l'autre? Parce que ils vont voter là où ça leur ressemble le plus.
Donc, d'après toi, Eric Roy sera l'élu?
Bien sûr.
C'est ce que tu es en train de nous dire?
Bien sûr.
C'est ce que je comprends.
Comme toute élection, je regarde les votes, qui vote. Et en général, dans le sport, il y a un truc qui est impitoyable. Il y a plus de frustration que de satisfaction. C'est-à-dire qu'un vainqueur, il n'y en a qu'un seul.
Oui.
Des mecs qui sont des stars, il n'y en a qu'un seul. Et en général, si tu as le choix de pouvoir basculer, émotionnellement, les gens vont voter comme ça.
Les mecs n'ont pas envie de voter pour le Paris Saint-Germain, qui ne fait pas partie du même championnat qu'eux, en quelque sorte.
Donc
c'est rare, hein, d'ailleurs, que l'entraîneur du PSG, même avec les titres, soit désigné. Je crois que c'est Emery le dernier à avoir
eu
l'Oscar.
Et Marion,
ils sont hors classement dans tout. C'est pour ça aussi.
Il faut tout gagner.
Mais le mérite revient quand même à Luis Enrique d'avoir fait le job cette année.
Tout à fait.
Et quand moi, vous me dites c'est que la Ligue 1, là où je rejoins Olive, c'est entraîneurs et joueurs qui vont voter. Quand entraîneurs et joueurs votent, ils ont forcément dans un coin de la tête, encore plus que nous, le parcours parallèle avec la Coupe d'Europe. Tu ne peux pas enlever le parcours en Coupe d'Europe du parcours en championnat, parce que ça fait partie de ton championnat, de gérer l'effectif, de gérer les égos, de ce qui se passe avec Kylian Mbappé depuis quelques mois. On gère le championnat sans lui pour pouvoir être... Donc, il ne faut pas lui enlever tout ce mérite-là. Mais je rejoins Olive, ce qui va toucher, c'est le cœur. Ce qui s'est passé à Brest est exceptionnel dans tous les sens du terme, et évidemment que cette fibre-là va toucher les joueurs et les acteurs de ce sport, et donc Eric Roy sera, je l'espère moi, pour le coup, élu meilleur entraîneur, parce que c'est tellement exceptionnel.
Il est déjà élu d'une certaine manière, c'est-à-dire que et on le voit aussi, il le dit
comme dirait Christophe dans sa catégorie,
il dit qu'il est très touché par rien que le fait d'être nominé, donc aussi dans la reconnaissance en tant qu'entraîneur, c'est important. C'est important, pas spécialement de le gagner, parce qu'en face, tu sais, comme je te l'ai dit, c'est émotionnel et tu peux pas savoir pourquoi tu vas être nommé, tu vas être élu plus qu'un autre. Mais la nomination elle-même, elle est importante pour l'entraîneur métier qui est de plus en plus difficile. Tu l'as dit tout à l'heure, les entraîneurs
ils galèrent. Olive, avec la saison qu'il a fait, c'est une anomalie complète.
Je suis d'accord.
Ils ont bien alors, il y a aussi on peut aussi donner le prix orange et le prix citron des entraîneurs. Les entraîneurs,
c'est tennis.
Marcelino, il gagne la main, non?
Oui, ça c'est clair.
On l'invite à Paris, on lui donne un truc, quoi. Enfin, je veux dire, Marcelino, au niveau de la Ligue 1, bon, il a fui, tout ça. Bon, bref. Claude nous appelle au 32-16. Salut Claude.
Bonjour les consultants, les journalistes et cette émission.
Bonjour Claude.
Je suis souvent le dimanche.
Est-ce que tu aimes cette émission, Claude?
Oui, parce que c'est très animé et puis il y a la parité, il y a l'esprit. J'aime bien l'esprit en live sur les.
Tu peux dire sauf, hein, tu peux balancer, Claude.
Ouais, s'il y a des consultants, tu le diras sauf.
Marion est excellente.
C'est la famille du Sud.
Bon Claude, dis-moi, est-ce qu'il faut récompenser le résultat ou le mérite?
Alors, j'ai juste une question à vous poser, messieurs, dames. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour nominer, on va dire, ces entraîneurs? Parce que je vous pose la question, si par exemple, bon, vous avez vu mon accent, si par exemple l'Olympique de Marseille va en finale de l'Europa League, la gagne, que Gasset ramène une Coupe d'Europe, Gasset nous qualifie en Coupe d'Europe, est-ce qu'il ne mériterait pas d'être au moins nominé?
Oui, mais Claude, déjà on vote sur la Ligue 1, Marseille 8e ce matin. Alors oui, le championnat n'est pas terminé, c'est-à-dire que Marseille peut encore, même si ça reste compliqué. Voilà, mais ça, en tout cas 5e, ça paraît inaccessible, mais 6e, c'est encore possible. Donc ça, tu as raison. Mais en même temps, on peut pas élire. C'est comme Pierre Sage. Pierre Sage, il fait une demi-saison. On va pas juger meilleur entraîneur de la saison Jean-Louis Gasset, tu comprends? Enfin, à mon sens.
Oui, mais on parle de oui, vous parlez de la Ligue 1, mais on peut parler aussi de si vous avez raison, vous parlez de la Ligue 1. Mais je pense que Monsieur Gasset, j'ai le plus grand respect. Il arrive parachuté comme ça, il fait des résultats. Il a l'équipe il a pas choisi l'équipe. S'il gagne la Coupe d'Europe et qu'il nous qualifie en Coupe d'Europe pour l'année prochaine, enfin, je pense que le gars il serait
parmi sur le podium.
sur le podium, oui, franchement, oui. Oui, parce que il y a l'état d'esprit aussi. Voilà, à Paris, il y a beaucoup d'argent. Je veux dire, qui est Luis Enrique ou pas, enfin, Paris serait premier du championnat. Il ne faut pas se leurrer avec les joueurs qu'ils ont chaque année, qui est Messi, pas Messi. Là, bon, il y a de nouveaux joueurs. Ils seraient premiers. Enfin, ce n'est pas un exploit, franchement, messieurs, avec l'argent qu'il y a, l'équipe qu'il y a. Par contre, M. Gasset qui arrive, qui est parachuté à la fin, qui nous fait gagner l'Europa League, notre deuxième Coupe d'Europe, qui nous qualifie une Coupe d'Europe, alors qu'avec ce Marcelino, c'était vraiment
catastrophique.
C'est un monsieur qui n'est pas du niveau, à mon avis, et qui n'était pas fait pour Marseille, en tout cas. Et le Gasset, il arrive 70 ans, on se moque de lui.
Alors, on peut peut-être créer la catégorie des plus de 70 ans.
Mais on des entraîneurs qui sont restés que 3 mois et qui ont réalisé un truc, on peut faire
ça. Mais ensuite, si on revient, bon, il n'y a pas Jean-Louis Gasset, on ne va pas disserter des heures.
Alors, vous mettriez l'Oscar à qui? Pierre Sage ou Jean-Louis Gasset, par exemple? Sur les deux.
Parce que Pierre Sage, quand même.
Toi, tu mettrais Pierre Sage.
Je mettrais Pierre Sage parce qu'il relève une équipe, même si Marseille allait très mal, il n'y a pas de débat, mais il relève une équipe qui était quand même dernière de Ligue 1.
Ouais, mais 65 millions mercato hivernal, il faut
Ah oui, Marseille n'a pas d'argent, j'avais oublié. Je veux dire, c'est
et on avait ces débats avec Jean-Louis qui voyait déjà l'OL en Ligue 2.
Ouais, non. Et alors Jean-Louis, c'était le seul à voir ça parce que tout le monde disait bon, avec l'effectif qu'ils avaient Lyon.
Jean-Louis, on n'a pas dit ça.
On disait dès le début de saison, c'était catastrophique.
Je vais te ressortir les ventes de Bartoli Time,
si tu veux, vas-y.
On disait que c'était catastrophique, mais que cette équipe ne pouvait pas rester à cette place-là. Et évidemment qu'elle n'est pas restée à cette place-là. C'était évident que ça n'allait pas durer.
De toute façon, Olivier, il n'y a pas de débat. C'est les trophées.
LFP.
LFP et Persage n'a pas son diplôme. Donc, déjà, t'oublies.
Ok, bon, on va passer à autre chose.
Et toi, t'es pas footballeur, donc t'as pas le droit de voter, donc tais-toi, tu dégages.
Ouais, un petit jeu tout de même à vous donner. En 2023, l'année dernière, qui était l'heureux élu des entraîneurs?
Francaise.
Francaise, évidemment. Ouais, Francaise. 2022. Elle n'est pas facile. Entraîneur français. Qui n'est plus entraîneur et qui a voulu arrêter.
Galtier.
Non, c'était pas Fabien.
Christophe Galtier.
C'était pas lui.
Genesio.
Bruno Genesio, exactement. Et 2021, Christophe Galtier. 2019, Christophe Galtier également avec Lille. Allez, je vous fais jouer juste sur 2018, tu l'as dit, c'est le dernier entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery.
En compte, ils n'ont plus gagné.
2017. Allez, c'est le dernier, 2017. Ouais. Souvenez-vous de la saison 2017.
Robert Herbin, non.
2017, il y a une équipe qui fait une saison formidable, notamment en Ligue des Champions. Non, en Ligue des
Lille.
Champions. Qui va loin en Ligue des Champions?
Qui va loin
avec Mbappé
champions.
En 2017.
Monaco.
Leonardo Jardim, un point supplémentaire pour Christophe Cessieux, toujours là pour me soutenir, bravo. 11h25, merci Claude d'avoir composé le 32-16 et merci de ta fidélité. Continue de nous suivre tous les samedis, dimanches à partir de 9h30. Le débat caché dans quelques instants. Oh, je vous ai préparé
quelque
chose.
Oh, c'est les pépites.
Oh, alors là.
C'est quoi là?
Là, ça va vous plaire.
Et non,
ça
là, concerne. Il nous vend le truc. Il est derrière.
Il est super déçu. Il stresse.
J'en fais des caisses, c'est mon métier, c'est dans mon contrat. Il y a une GG qui est particulièrement
tout ça pour faire du Mbappé, ouais.
Pas visé, hein, mais c'est son sport, voilà. Donc on l'attend sur son sport. Une des personnalités
tennis
autour de la table.
Ou hand ou vélo.
Ok. À tout de suite sur
l'apéro. Ou l'apéro
pour Christophe. Exactement. Un bon débat sur l'apéro dans quelques instants. Allez, faites vos jeux. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h29 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Jérôme Pinault, Marion Bartoli, Olivier Giraud, Christophe Cessieux. Les débats continuent même pendant la pub. Bravo les copains. Et bientôt je vais diffuser les pubs, hein, parce que vous êtes excellents pendant la pub.
Bien meilleur que
pendant l'émission. C'est
No Fighter. C'est-à-dire qu'on dit vraiment ce qu'on pense.
Ouais.
Et là, ça dépend.
On va peut-être changer le titre de cette émission d'ailleurs, les grandes gueules. Je m'y vois déjà. Bref.
Ça va
11h30. Vous êtes évidemment sur RMC. Je suis très heureux d'être avec vous. Allez, dans 10 minutes. C'était mieux avant. Spécial JO, évidemment, depuis le début de l'année avec Christophe Cessieux. 1972, la finale de basket, la finale olympique mythique entre l'URSS et les États-Unis. Ne manquez pas ce moment savoureux, comme d'habitude, avec Christophe Cessieux dans 10 minutes. Mais tout de suite, je l'attends depuis quelques jours, celui-ci. Vraiment, j'attends. Ah. En plus, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent, vous parlez pas de ça. Eh ben, si, j'en parle parce que j'avais prévu. Maintenant, c'est le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur l'émotion, sur la sensation. Il s'est passé quelque chose cette semaine. Mon guet-apens pour vous aujourd'hui, c'est ça.
C'est tiré et c'est arrêté par le portier allemand. Bon. Les Allemands ont réalisé l'exploit de remonter 9 buts. Ils s'imposent de 10 buts ce soir, 31-21. Terrible désillusion. Ils s'arrêtent aux portes des quarts de finale. Défaite de 10 buts du MHB qui est éliminé de la Ligue des Champions.
Jeudi, l'impensable s'est produit. Le Montpellier Handball a subi sa remontada. En quart de finale de la Ligue des Champions à l'aller, les Montpelliérains avaient pourtant battu de 9 buts le champion d'Allemagne, Kiel, déroute inouïe au retour avec une défaite de 10 buts. Avant la cata, le célèbre entraîneur du MHB, Patrice Canaillé, qui quittera le club en fin de saison, a lâché ceci. Écoutez bien, c'est l'objet de notre débat, Patrice Canaillé.
C'est un défi pour nous de nous trouver en position de favori, parce que quand tu as 9 buts d'avance, tu ne peux pas te cacher en disant que tu n'es pas favori. C'est un vrai test pour nous dans cette capacité que l'on va avoir à passer un cran dans un match difficile contre un adversaire qui a été blessé, certainement même un peu humilié et qui va avoir envie de se refaire. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà employé ce terme, on n'est pas non plus une équipe de Baltringue, on n'est pas non plus un club ordinaire, on est Montpellier quoi, voilà.
On n'est pas une équipe de Baltringue, on n'est pas un club ordinaire, on est Montpellier.
C'est rare qu'il utilise des mots comme ça.
Cette décla a-t-elle fait du mal à Montpellier ? Oui ou non ?
Oh là 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 !
Christophe Cessieux, la sensation, l'émotion ?
Je ne sais pas si les gens de Kiel l'ont écouté avant d'aller faire le match, c'est ça le truc ?
Non, c'est sûr que non.
Oui
non.
Ou non ?
Non.
Non, Marion Bartoli ?
Non, je pense pas.
Jérôme Pinault ?
Bon, puisqu'ils ont dit non, je vais dire oui.
Plutôt oui, tu vas défendre tes arguments. Olivier Giraud ?
Non, non, non.
Non, non, non. Je t'ai vu sourire devant l'intitulé de mon débat.
Nous avons avec Jérôme Pinault, un grand spécialiste de hand, qui va bien nous défendre le truc là.
Je veux pas parler de hand, je veux parler de prise de position et de ce côté franco-français qu'on a
d'insuffisant.
Et bien souvent, quand on est en position comme ça, d'être très largement avec beaucoup d'avance sur l'adversaire et qu'on tombe dans cette suffisance et qu'on retrouve notre emblème. Ouais, eh bien, on se fait piner.
Alors, je vais avec toi. Je me mets de son côté.
C'est okay, bon,
j'avais pas pensé à ça, mais c'est exactement. On a failli faire un débat. On a eu une grande réunion l'autre jour en conférence de rédaction.
C'est pas posé des clés.
Mais c'était sur la même chose. Est-ce qu'on s'est emballé avant match pour le Paris Saint-Germain
en disant
Dortmund, c'est facile,
exactement.
Les doigts dans le nez, c'est l'adversaire le plus facile. On va leur marcher dessus et on.
Sauf qu'il n'y a pas eu ce genre de déclat de la part d'un protagoniste.
Il n'y a pas eu, mais il y avait quand même.
Non, mais la déclat,
c'est surtout la remontada de Barcelone après 4-0
tout au long de la semaine, dans les médias notamment. Bon, après, nous, c'est notre rôle de monter ou de descendre et d'exagérer tout. Mais ça procède de la même intention. Les Français, on parle souvent des Anglais, mais les Français, je trouve, sont parfois plus suffisants que ne sont les Anglais. On est un peu trop sûr de nous. On est les meilleurs. Alors, tu as vu, en revanche, Hugo Mola n'a pas tout à fait le même discours avec.
Il craint la même chose. Dernier match contre les Harlequins, ça s'est tellement bien passé.
Et c'est là que Canaillé, qui a pourtant une expérience extraordinaire, qui a tout gagné avec Montpellier, ne devrait pas tenir ce genre de discours. On n'est pas des Baltringues. Ben oui, on sait que vous n'êtes pas des Baltringues. C'est pas la peine de le dire.
Et pourquoi je vous propose ce débat ? Parce qu'évidemment, j'avais repéré cette phrase dans la semaine, c'était jeudi matin, dans le journal L'Équipe, en gros, on n'est pas des Baltringues. Et ça, je me souviens que quand j'ai lu cette phrase,
j'ai vu 9 buts
d'avant, je me suis dit, c'est bizarre, ça m'avait interloqué. Voilà. Et puis patatras, le soir même, Olivier Giraud, ton sentiment ?
Sourire déjà.
Ah, c'est ton sport.
Ouais, c'est mon sport. Et d'abord, avant de commencer, il faut expliquer, parce que si tu balances la phrase comme ça de Patrice Canaillé, tu peux croire qu'il y a de la suffisance. Il y en a aucune, mais même pas un centième de suffisance dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on a enlevé le mot là. On n'est pas des Baltringues. Ce mot-là, il l'utilise pour une autre raison. Une autre raison parce que Montpellier, c'est pas n'importe qui comme club. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des clubs qui ont énormément d'argent et comparer des entraîneurs à des autres. Là, on parle du meilleur entraîneur au monde de club avec Talant Doutchebaïev. Et il est français. Il est français. C'est pas celui qui est mis le plus dans la lumière parce qu'il n'est pas l'entraîneur de l'équipe de France. mais c'est le mec qui a rapporté le plus de titres dans le handball français au niveau européen également. C'est-à-dire que il le dit parce qu'il a déjà vécu ça. Il l'a déjà vécu, ils en prennent 9 à Pamplune. Et cette équipe qui avait à Pamplune à cette époque-là, c'est Jackson Richardson, c'est tous les grands pontes, ils jouaient à Pamplune à cette époque-là. Et ils en prennent 9 à l'aller. Il se passe quoi au retour? Le premier titre de Montpellier, de ce club, il le gagne là avec des gamins, Guigou, avec Karabatic, avec des gamins que tu connais pas encore vraiment. Et qu'il la connaît, cette Coupe d'Europe. Après, derrière, il a, en 2018, le grand PSG qui arrive avec tous les meilleurs joueurs du monde qui viennent jouer au PSG. Et lui, il fait encore comme il faisait, tu parles des Toulousains, tu vois. Eh ben, Montpellier, c'est, tu disais, c'est le plus grand club Toulouse.
C'est le stade Toulousain du Hand, quoi.
C'est le stade Toulousain du Hand, et on le reconnaît tous. Canaillet, tu l'aimes pas. Mais tout le monde reconnaît une chose. C'est que c'est le plus grand entraîneur de club qu'on ait jamais vu en France.
Mais est-ce que c'est ça, on entend, mais est-ce qu'il a pas fait une faute?
Non.
Parce que écoute-le.
Non, mais
petit
mea
culpa, et je te lance après Marion. Petit mea culpa sur France Bleu, Patrice Canaillet qui se remet un petit peu en question après la rencontre, c'était un ou deux jours après, une fois de le temps d'évacuer, même si c'est pas du tout encore évacué. On l'écoute, Patrice Canaillet.
Ce que je vis très mal, c'est de ne pas avoir réussi à transmettre à cette équipe, qui est une équipe de qualité, avec qui j'ai des relations très agréables, avec des joueurs que j'apprécie beaucoup, ce surcroît de détermination, de volonté, de rage de vaincre. Voilà, ça c'est mon regret, ça c'est ma grande frustration. C'est que je pense que cette équipe était talentueuse. Pour moi, c'est un sentiment un peu d'échec. Après, d'aller ou pas aller au Final Four, mon avis m'a déjà beaucoup gâté. Donc, je ne peux pas me demander beaucoup plus.
Il n'a pas réussi à transmettre la rage avec ce genre de phrase.
C'est hyper drôle parce que, enfin drôle, parce que ce n'est pas dans son tempérament d'être câlin avec ses joueurs.
Ouais. Et ni d'être fanfaron non plus.
Non, ni d'être fanfaron. C'est quelqu'un, et je pense que sa dernière année.
Non,
mais ça me fait penser à la dernière compétition de Daniel Constantini. Soit le Mondial 2001, c'est sa dernière compétition. Et en fait, cette dernière compétition, on avait l'impression d'avoir un autre coach à côté de nous. Il était là pour nous accompagner. Il était moins dictateur, moins dur. Et ça a marché.
Je vous ai pas donné, livré toute l'interview sur France Bleu, mais il en met une petite couche, une bonne couche à ses joueurs, hein, en disant qu'on n'est pas une grande équipe. Que,
Ça c'est automatique. Ça veut dire que à un moment, le truc c'est qu'en face, il dit on n'est pas des baltringues parce qu'en face l'équipe qui est en face, Kiel. C'est en Allemagne, c'est l'épouvantail. C'est l'épouvantail. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, à la fin, il y a 5 équipes allemandes et celle-là, elle est incroyable.
Très bien. Que mais quand tu gonfles les muscles comme ça avant le match, bah il y a le retour de bâton. C'est ça que je veux vous dire.
Non, mais c'est surtout. Non, mais c'est surtout à la fin de la fin. Moi, je veux bien qu'on incrimine l'entraîneur et qu'on dise que c'est la faute. Non, mais c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain.
Ah oui.
Si cette débâcle a été rendue possible, c'est parce qu'ils ont inscrit 0 but lors des 10 dernières minutes. Et encore, ils ont jusqu'à la toute fin le dernier ballon du match, puisque les Allemands commettent un marché. Ils ont le dernier ballon du match pour aller arracher des prolongations. Et encore là, ira. Donc, moi, je veux bien qu'à chaque fois, on dise oui, non, mais c'est l'entraîneur qui, voilà, a pas trouvé les mots. Mais les premiers responsables, c'est ceux qui jouent.
Oui, oui, oui.
Non, mais c'est la réalité. Donc, moi, j'en ai marre qu'à chaque fois, on dise oui, non, mais l'entraîneur. Oui, mais il a pas trouvé les mots. Oui, mais il a fait preuve de suffisance. Attends, tu mènes de 9 buts à l'aller. T'as quand même le droit de te dire que t'as une grande chance de te qualifier.
Eh ben, justement, c'est ce que nous on dit. C'est l'état d'esprit de suffisance.
Oui, mais c'est pas une question de suffisance. C'est une question de dire que t'as quand même une grande chance de te qualifier.
Pour une fois, je vais vous dire une chose. J'y ai joué dans cette salle. International, j'ai joué quelques grands matchs. Hein. C'est pas comme au tennis, hein, Marion, le handball à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a le public ne manifeste pas seulement quand t'as fini le point. Le jour où tu joues dans une vraie atmosphère,
c'est
comme
l'enfer.
C'est l'enfer et c'est génial. C'est génial à vivre. Hein. J'ai pris des branlées là-bas et j'utilise exactement le mot qu'on utilise. Hein. J'ai pris des danses à Kiel comme jamais. Ça veut dire que le public là-bas, il emmène l'équipe. Je sais pas comment ils font. Mais c'est incroyable. Bon, après, ils ont toujours des top joueurs. Hein. Mais aller jouer là-bas.
Fait que ça a fait
quand on a 9, quand on a 9, c'est pas faux. Quand on a 9 dans la musette, tu sais que ça va être dur et que.
Non, mais exemple, Olive, ils ont joué dans des ambiances hostiles quand même, ces joueurs. C'est pas la première ambiance hostile.
Oui, je suis d'accord, mais c'est, voilà. c'est du handball, c'est comme ça. Et que ça va très vite. Ça veut dire que si tu prends la foudre dès le début quand t'as 9 buts, par exemple, et que il remonte 5 buts très rapidement, vous savez, le match,
il est. Mais c'était à 5 buts, c'était à 17.
Donc le match, il est déjà redessiné.
il est déjà redessiné. Donc son truc, c'est la première mi-temps, essayer de tenir. Ils ont pas tenu, ils ont explosé. Émotionnellement, ils ont explosé. Et c'est la réalité du sport. Et bravo à Kiel. Okay. Parce que Montpellier l'a déjà fait aux autres.
Bon, en tout cas, je voulais vous proposer ce débat. C'était l'un des moments forts de la semaine. On va juste écouter après la rencontre. On est encore sur le terrain. Il y a du bruit, mais essayez de vous concentrer si vous êtes dans votre voiture. Parce que vous allez écouter Rémi Desbonnets, le gardien de but de Montpellier. Et on a l'impression que
c'est la fin du monde.
Il y a un avion qui s'est écrasé sur ses pompes, pour reprendre une célèbre phrase.
Ah ouais, c'est horrible.
On savait que ça allait se passer comme ça, et je pense que c'est liquéfié. On a commis trop d'erreurs et on en manquait un peu partout, je suppose, j'en sais rien. Je pense qu'on s'est trop mis de vie dans une dynamique difficile, alors que même à plus 6 pour eux, on avait encore de l'avance, il restait 10 minutes. C'est fini. Voilà.
Et voilà, dure réalité, hein. Et on entend l'ambiance, justement.
Ça va laisser des traces,
mais
en
justement,
plus.
Justement,
une
ambiance. Exactement. Plus,
c'est terminé, les copains.
Sincère sur le fait que les joueurs ont une responsabilité.
Ah, c'est la musique de la Ligue des Champions. Ça veut dire que c'est le moment pour vous, chers auditeurs, d'envoyer PSG au 732-16, PSG au 732-16, pour vivre l'expérience RMC. Pour ce match le mardi soir entre le Paris Saint-Germain et Dortmund, demi-finale retour de la Ligue des Champions, vous venez ici à RMC rencontrer toutes les équipes, vous partez au Parc des Princes avec la personne de votre choix et puis vous revenez pour assister à l'after. On vous offre ça sur RMC, PSG au 732-16. Allez, à tout de suite pour C'était mieux avant, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux sur les Jeux Olympiques. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h44 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Olivier Giraud, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Dans une quinzaine de minutes, les paris RMC, vous le savez, il n'y a pas de match de Ligue 1 et de championnat tout court de football. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, en commémoration au drame de Furiani survenu en 1992. Nous ne jouons pas au foot le 5 mai. On vous parlera tout de même dans les paris RMC des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa et on vous donnera toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, c'est l'heure du boss de Christophe Cessieux.
Les GG.
Tatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Plisguida. C'est le champion de l'Afrique.
C'était mieux avant.
1972, les Jeux de Munich, Broye du Noir.
Ce 9 septembre 1972, dans les rues de Munich, les regards sont tristes, les sourires absents. À la veille de la clôture des 20e Jeux Olympiques d'été, spectateurs et athlètes encore en lice n'ont qu'une hâte, en finir avec ces Jeux du malheur. 4 jours plus tôt, le 5 septembre, en plein cœur de la nuit, un commando palestinien nommé Septembre Noir a semé la désolation, prenant en otage dans le village olympique une partie de la délégation israélienne et assassinant deux de ses membres.
Oui, voici le tout premier reportage que nous venons de recevoir de Munich. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, et en blessaient grièvement un autre.
6 heures, la police a bouclé le village et le suspense commence. Les Palestiniens font connaître leurs revendications. Un avion doit être mis à leur disposition à l'aéroport de Munich, faute de quoi ils exécuteraient les otages, un par un, toutes les 2 heures.
Une prise d'otages qui s'achèvera dans le sang et les larmes, une vingtaine d'heures plus tard, lorsque les autorités allemandes décident de lancer l'assaut sur le commando et ses otages, le bilan est effroyable. Ils viennent d'annoncer que sur les 11 otages, 2 avaient été tués dans leur chambre. Les 9 autres à l'aéroport ce soir, ils sont tous morts. La planète est sous le choc et les Jeux en deuil. Une cérémonie funèbre rassemblant 80 000 personnes est organisée durant laquelle Avery Brundage, le président américain du CIO, décide que les Jeux de Munich vont se poursuivre. Les Jeux doivent continuer et nous devons poursuivre nos efforts pour qu'ils restent propres, purs et honnêtes. Parmi les athlètes encore présents, il y a les basketteurs américains, dont certains ont vécu la prise d'otage au plus près. C'est le cas du pivot de Team USA, Tommy Burleson. Un soldat allemand s'est approché de moi et m'a dit de me tenir près du mur. les Palestiniens se préparaient à faire sortir les otages israéliens. Alors que les Israéliens se déplaçaient derrière moi, je pouvais entendre des gémissements et des bruits de pas. L'Allemand a porté l'arme de mon dos à l'arrière de ma tête il y a maintenu. À ce moment-là, je suis presque sûr d'avoir fermé les yeux et d'avoir fait une prière pour moi-même. J'aurais vraiment dû prier pour eux. Malgré le traumatisme et l'exfiltration du héros américain des Jeux, le nageur Marcus Spitz, d'origine juive, les basketteurs US décident, eux, de rester sur place afin de disputer la fin du tournoi. Au soir de la reprise, le 7 septembre, ils affrontent en demi-finale l'Italie, qu'ils balaient 68 à 38. Une promenade de santé pour cette équipe qui n'a encore jamais perdu un match au cours des 7 précédents Jeux Olympiques, dont elle est, on le pense alors, victorieuse à perpétuité. En finale, un vieux rival l'attend, l'Union soviétique, toujours placée, jamais gagnante, et ce malgré 4 finales disputées contre les Ricains. En ce début des années 70, un affrontement États-Unis-URSS n'est jamais un match anodin. En état de guerre larvée depuis plus de 20 ans, les deux superpuissances livrent aussi leur duel idéologique sur les terrains de sport. Fort de leur succès à répétition, les Américains abordent le tournoi en totale confiance avec une équipe de gamins. À l'époque, les pros de la NBA n'ont pas encore droit de cité aux Jeux Olympiques, réservés aux joueurs universitaires. Le journaliste américain David Sweet, auteur du livre « 3 secondes à Munich », évoque les forces en présence pour cette finale. La plupart des joueurs américains étaient des collégiens et l'équipe avait été constituée à la hâte. On se demandait s'ils seraient capables de battre les Soviétiques qui, eux, avaient une vraie équipe pro qui jouait tout le temps ensemble. À l'entame du tournoi olympique, les basketteurs soviétiques, qui n'ont d'amateurs que le nom, ont déjà disputé près de 400 matchs ensemble, alors que les rookies américains ne comptent qu'une douzaine de rencontres en commun. Des Américains qui, avant même le début du tournoi, ont enregistré des forfaits de taille, dont celui de Bill Walton, futur MVP de la NBA, qui a fixé des conditions inacceptables à sa présence, dont celle d'arriver à Munich sans effectuer la moindre préparation avec le groupe. Et l'inexpérience des Américains va se vérifier lors de la finale. Il est 23h45 ce 9 septembre lorsque le coup d'envoi du match est donné. Drôle d'horaire, me direz-vous. Et oui, déjà à l'époque, le diffuseur américain fixe ses conditions au CIO. ABC et ses téléspectateurs vont vite déchanter, car sur le parquet de Munich, les collégiens US prennent l'eau. Incapables de prendre le jeu à leur compte, ils subissent le tempo des Soviétiques. Dans le camp américain, l'ailier Mike Bentham enrage. Nous étions désavantagés parce que nous ne pouvions pas contrôler le rythme et nous ne pouvions pas sortir et courir. Nous étions obligés de jouer à leur manière. Et l'écart grandit. De 5 points à la mi-temps, il passe à 10 points d'avance en faveur des Soviétiques à 10 minutes de la fin du match. Alors, perdu pour perdu, les Américains finissent par se réveiller et retrouvent, à l'image de Bentham, toute leur qualité de basketteur. On a commencé à jouer beaucoup plus vite, à les mettre sous pression, on sautait, on s'accrochait. Vous voyez dans le regard des joueurs adverses quand ils ne savent plus comment faire et on a vu qu'ils n'avaient plus de solution. Team USA se rapproche à vitesse grand V, mais le chrono, lui, file. Plus qu'un point d'avance pour les Russes, mais seulement 10 secondes à jouer. C'est là que se joue le premier acte de ce final à suspense raconté par David Sweet. Ils ont été menés toute la partie. Pourtant, à 10 secondes de la fin, il n'y avait qu'un point d'écart. Les Soviétiques avaient la balle, ils n'avaient pas besoin de tirer. Pourtant, l'un d'entre eux décide de faire une passe qui est aussitôt interceptée par Doug Collins, qui traverse le terrain, arme son tir avant d'être balayé par un Russe. Collins, groggy, s'écroule. Va-t-il pouvoir se relever et inscrire les deux lancers francs que lui offre l'arbitre et qui donnerait la victoire aux Américains ? À moitié dans le coltard, il entend ses deux coachs évoquer son cas. Les entraîneurs sont venus voir comment j'allais. Ils parlaient entre eux. On devrait peut-être faire entrer quelqu'un pour les lancer francs, tu trouves pas ? Et mon coach de répondre de sa voix grave, c'est Doug peut marcher, il peut shooter. Et pendant que Collins reprend ses esprits côté soviétique, on est catastrophé à l'image de Sergei Belov, furax à l'égard de son homonyme, Sacha Belov, auteur de la passe désastreuse. C'était la catastrophe, comme si une bombe nucléaire venait d'exploser. J'ai détesté Alexei à cet instant-là, j'étais même prêt à le tuer. Il avait ruiné la victoire de ses propres mains. Tous ses entraînements, tous ses rêves, cette victoire que nous touchions des doigts, tout à coup, tout s'écroulait. Mais avant que tout ne s'écroule pour les Russes, il faut d'abord que Collins entre ses deux paniers. La pression est maximale sur les épaules du jeune Américain. cet endroit devient complètement dingue. Collins vient d'égaliser. Et le voilà qui inscrit un nouveau panier, peut-être celui de la victoire. Il reste 2 secondes à jouer. Pour la première fois de la partie, voilà les Américains devant. Et à moins d'un miracle, ils sont champions olympiques. Ça ne fait presque plus aucun doute. Les Soviétiques réengagent. Et aussitôt le buzzer retentit, les Américains se croient champions. Mais non, c'est l'arbitre qui a stoppé le jeu. Après que les coachs russes soient entrés sur le terrain, en assurant qu'ils avaient demandé un temps mort entre les lancers de Collins que personne n'a entendu. Manque d'attention ou défaillance, il n'empêche, la table de marque accorde un dernier sursis aux Soviétiques à qui il ne reste plus officiellement qu'une seconde pour marquer.
Remise en jeu soviétique, la sirène retentit, les Américains sont champions olympiques sur le score de 50-49.
Mais quel finish incroyable, c'est complètement dingue. Les Américains remportent leur 8e médaille d'or consécutive, cet endroit est devenu complètement fou.
Mais regardez au milieu, l'arbitre et un des officiels veulent faire évacuer le terrain.
Encore 3 secondes.
Décision confirmée par le speaker qui annonce qu'il reste 3 secondes à jouer.
Cette décision, c'est William Jones, le président de la Fédération internationale, qui l'impose à la table de marque, ordonnant de remettre 3 secondes au tableau d'affichage pour revenir à la configuration d'avant les lancers francs. Les Américains sont furax, ne comprennent pas l'intervention de Jones, ils menacent de ne pas reprendre le jeu. Finalement, au bout de longues minutes de palabres, un calme relatif finit par revenir. Les Russes ont une extra ball qu'ils ne vont pas gâcher.
Longue balle en avant pour Belov, qui réussit le panier. C'est incroyable, ce sont maintenant les Soviétiques qui sont champions olympiques.
Sans trop y croire, les officiels américains déposent immédiatement une réclamation qui sera rejetée quelques heures plus tard pour le plus grand courroux de Bob Ryan, journaliste au Boston Globe, présent cette nuit-là à Munich. Le match a été volé aux Américains. L'impudeur de tout cela est risible, naturellement, parce qu'il s'agit d'une erreur judiciaire, tellement évidente et pathétique. C'est une parodie, une plaisanterie, une farce inimaginable. Et le lendemain, sur le podium, cette image incroyable, l'immense place réservée aux vice-champions olympiques est vide et les 12 médailles d'argent restent dans leur écrin. Les Américains ont quitté Munich, promettant ad vitam aeternam de ne jamais accepter cette médaille. Pour Kenny Davis, le meneur US, c'était l'or et rien d'autre. Nous ne voulons pas de la médaille d'argent. Nous allons dire au monde que nous n'en voulons pas. Nous avons gagné la partie et si nous n'obtenons pas l'or, alors nous ne voulons rien d'autre. Davis fera même inscrire dans son testament l'interdiction aux membres de sa famille d'hériter de sa médaille. Une position qui irritera autant qu'elle amusera les Soviétiques, à l'image de l'ancienne basketteuse Nina Eremina qui ce soir-là commentait le match pour la télé soviétique. Je dois admettre que je n'ai pas aimé la façon dont les Américains se sont comportés. Cela a entaché mon attitude à leur égard. Si vous êtes un véritable athlète et un homme, vous devez être assez fort pour perdre. Ils étaient bien trop présomptueux, trop occupés à se regarder le nombril. Le respect du rival, il est où là? Des Russes qui rentreront au pays auréolé de la gloire des héros soviétiques. Leur histoire fera même l'objet d'un film, bien des années plus tard, qui deviendra le plus rentable de l'histoire du cinéma russe. Quant aux médailles d'argent, 52 ans plus tard, elles restent toujours rangées au fond des placards du CIO à Lausanne. Des médailles dont les Américains ne veulent toujours pas, même si pour Tim McMillan, pivot de l'équipe US ce soir-là, elles devraient faire l'objet de plus d'attention. Ces médailles devraient être exposées quelque part. On pourrait alors parler de l'histoire de ce match et de la façon dont la politique et le sport sont liés. C'est un moment d'histoire et pas seulement un match de basket. C'était une époque où des pays étaient en guerre, froide certes, mais guerre quand même. Et cela s'est répercuté sur les terrains sportifs. Ça fait partie de l'histoire de ce jeu. McMillan, qui après avoir quitté les parquets, deviendra membre de la Chambre des représentants des États-Unis et quitte son siège, fera tout son possible pour qu'à l'avenir, la sélection olympique américaine soit composée de joueurs pros. Un projet qui aboutira en 1992 à la création de la première Dream Team et de ses stars, et Jordan, Bird et autres Magic Johnson. Avec une telle équipe, les Russes auraient eu besoin de bien plus de 3 secondes pour espérer faire tomber les rois du basket. Les États-Unis, qui à ce jour ont remporté la bagatelle de 16 médailles d'or lors de 20 tournois olympiques disputés, oui, mais ces 3 secondes leur laisseront à jamais un goût d'inachevé, la désagréable sensation de s'être fait spolier, voire enfler. Damn right.
Encore un très beau moment offert par Christophe Cessieux. Nous raconter cette histoire, ça vous a fait réagir hein, dans le studio, parce qu'on connaissait cette histoire, mais pas aussi
là,
bien qu'elle a été.
C'est du vol absolu. C'est le plus grand vol de l'histoire du sport.
Non, faut le re-regarder. C'est incroyable. En plus, maintenant que tu as raconté l'histoire, re-regarder les images, et je trouve ça hyper intéressant. Et Doug Collins, qui était l'entraîneur de Michael Jordan.
Exactement.
Et juste pour te dire, ils n'ont pas attendu 92. Michael Jordan l'a gagné en 84. Les Jeux Olympiques avec les États-Unis alors qu'ils sont...
Oui, mais la grande... Alors, c'est vrai que les pros sont entrés petit à petit, mais après, ils ont voulu vraiment assurer
ils
le coup en 82.
Ils pensaient qu'il y a écrasé tout le monde.
Et, on a beaucoup de chance en parlant de ça. Vite fait, c'est que peut-être la deuxième vraie Dream Team, elle sera à Paris cette année.
Oui. Une voilà, c'était mieux avant, spécial JO. On est parti, pardonne-moi Marie, on est très pris par le temps, mais on aura Bartoli Time ce soir pour en parler à partir de 19h. Nous sommes partis aux Jeux Olympiques 1924 avec Christophe Cessieux. On remonte le temps jusqu'en, évidemment, 2020. Nous sommes en 1972. Cette histoire racontée par Christophe Cessieux, c'est à retrouver, évidemment,
en podcast. La semaine prochaine, une jeune fille qui a marqué des générations.
Le 10 sur 10
Certaines, exactement. Nadia Comaneci.
Parfait. Merci beaucoup, Christophe Cessieux. Merci à toutes les GG. Marion Bartoli, merci Jérôme Pinault, Olivier Giraud. Je vous embrasse très fort. Marion, on se retrouve ce soir à partir de 19h pour une émission absolument exceptionnelle. Richard Gasquet sera notre invité exceptionnel. Et oui, avec Marion Bartoli. Et puis les Paris RMC, dans quelques instants, vous allez voir. On va parler de la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain et Marseille. À tout de suite sur RMC.